À l'occasion de sa 38e édition, le festival BD Boom propose cette année encore un programme d'ateliers et de rencontres d'auteurs à destination de publics éloignés des pratiques lectorales. Avait lieu le mercredi 17 novembre dernier un échange entre les jeunes de la Fabrique et Simon-Pierre Mbumbo, scénariste et dessinateur camerounais. La BD Colonel Toutou, écrite par Christophe Ngalé-Dino, raconte les aventures d'un dictateur africain, Papa Toutou, dirigeant la nation imaginaire du Yoplaboum. Illustrée par Simon-Pierre, elle constitue une dénonciation humoristique de la France-Afrique. Quatre jeunes de la Fabrique ont lu Colonel Toutou et ont pu échanger avec l'illustrateur sur sa pratique, découverte à travers leur regard de l'univers de Simon-Pierre.
Pouvez-vous vous présenter rapidement, s'il vous plaît ? Nous expliquer votre parcours, la découverte de votre passion.
D'abord, avant de commencer, je souhaiterais vous remercier l'accueil de la structure La Fabrique. Et c'est un plaisir de venir échanger avec vous, car nous sommes là aussi, en dehors de nos périodes de création, de se retrouver avec des gens, des lecteurs, pour échanger sur notre démarche. Donc voilà. Bon, moi, je m'appelle Simon-Pierre Bumbo. Je suis auteur de bande dessinée. Je suis beaucoup plus dans le dessin, mais il m'arrive de faire aussi des scénarios parfois. Mais pour l'instant, j'ai fait un album scénarisé. Et mon parcours, je suis arrivé en France en 1999 pour l'école des Beaux-Arts Angoulême. Par la suite, j'ai travaillé pour des maisons d'édition. En l'occurrence, j'ai longtemps été chez Bayard Presse Édition. Dans la presse. Après, j'ai travaillé pour d'autres maisons d'édition comme L'Aïmomo en Italie et Les Enfants Rouges. Et bon, voilà. Je ne dirais pas que j'étais un peu lassé, mais j'étais insatisfait de ce que j'attendais. Il y avait une forme d'insatisfaction par rapport à l'attente à mon attente envers l'édition. Parce que moi, quand je suis arrivé, je me suis formé dans le but de raconter l'Afrique. Ce que j'ai eu comme problème durant ma carrière, c'est les maisons d'édition n'ayant pas des collections, des BD d'Afrique, il était difficile de placer des projets de bande dessinée sur l'Afrique. Donc, ce qui faisait que je me retrouvais en train de travailler sur des sujets qui n'étaient pas toujours dans ce que j'avais envie. Bon, ce qui m'a poussé à créer une maison d'édition, les éditions Toum, pour justement me donner la liberté de pouvoir raconter ce que je veux raconter, ma culture, ce que je perçois de la société africaine, mon regard en tant qu'Africain vers le monde, et aussi d'éditer aussi des autres auteurs installés en Afrique et aussi ici en France. Bon, les auteurs africains qui sont ici ont eu les mêmes vécus, les mêmes parcours, les mêmes difficultés. Il fallait créer cet espace. Donc j'ai créé les éditions Toum pour cela. Et voilà, nous essayons depuis quelques années, essayer de faire des BD qui parlent de l'Afrique. Donc voilà. Pour mon handicap, ça étonne toujours des gens de voir qu'il y a un malvoyant qui fait de la BD, qui fait de la bande dessinée. Mais bon, moi, je suis handicapé à 80%, plus de 80%, c'est-à-dire je n'ai que moins de 20% d'une capacité visuelle. Mais j'ai appris, parce que j'ai eu ce problème durant mon parcours, entre la formation aux Beaux-Arts et le monde professionnel. Donc, j'ai eu une maladie qui n'a pas été prise à temps, qu'on appelle le glaucome, qui m'a fait perdre une bonne partie de mes nerfs optiques. Donc, je me suis retrouvé avec une vision très amoindrie. Et il fallait donc me réadapter. Il m'a fallu 2 ans pour réapprendre à travailler comme un dessinateur normal. Et donc, je travaille comme un dessinateur normal, mais avec quelques problèmes de fatigue. Mais bon, ça se gère. Voilà.
Par rapport à votre handicap, vous avez dit que ça a pris du temps. Enfin, est-ce que ça a eu un handicap par rapport à la création de votre BD ou pas du tout ?
Non. Non, pas du tout, parce qu'en fait, pour moi, quand j'étais confronté à ce problème, puisque je me retrouve comme ça, la maladie est découverte, j'ai suivi une intervention chirurgicale et les choses changent totalement. Je ne suis plus la même personne. Mais 2 choix s'imposaient à moi, soit m'apitoyer sur mon sort, soit me dire, bon voilà, je vais me retrousser les manches et trouver un moyen pour continuer ma passion, qui est le dessin. Et c'est ce que j'ai fait. Il fallait me surpasser. Ça n'a pas été évident pendant 2 ans. C'était des périodes d'angoisse, de dépression. Mais c'est toujours important parce que ça permet à ce qu'on essaye de... On réfléchit sur soi et on apprend à vivre autrement. Donc c'est ce que j'ai fait. Ça a été plus une force pour moi de repartir. Et je peux vous dire aujourd'hui, bon, moi quand je travaille, pour moi il n'est pas question, bon, il n'est pas question qu'on s'imagine que c'est un malvoyant. C'est que j'essaye au maximum de faire à ce qu'on ne s'imagine même pas que c'est un malvoyant qui dessine. Et de toute façon, vous allez voir tout ce que j'ai fait. Bon, vous allez voir Colonel Toutou. Si vous voyez aussi la BD que j'ai fait sur le football africain, Vaudou Sosseur, vous ne pouvez pas imaginer. C'est hyper détaillé. Parce que pour moi, c'est toujours... Quand je travaille, je me dis non, non, il ne faut pas que les gens se rendent compte. Il faut que je donne plus. C'est un peu ça. Et c'est un état d'esprit. C'est pour moi une force, je trouve. La seule difficulté pour moi, c'est me déplacer. Mais j'arrive à dessiner normalement. Je dessine parfois rapidement. Je peux faire un album de BD en 6-8 mois. Et donc, c'est vrai que tant la fatigue arrive, mais on gère.
Est-ce que vous avez eu besoin d'aide pour la création de votre BD ?
Non, en fait, la création de ma BD, par rapport à ce Colonel Toutou, tu voulais dire ? Colonel Toutou, en fait, ça a été une BD faite en collaboration avec un scénariste qui s'appelle Christophe Edimo. On a parlé, on a échangé par rapport au sujet. On a énormément réfléchi sur ce qu'on avait envie de faire. Et donc, il a fait des propositions, il a fait des propositions de texte et voilà, je me suis mis par la suite à le dessiner. Donc, tout en respectant le canevas dans lequel les choses ont été tracées. Je dirais aide, mais en fait, c'est un duo, c'est un travail d'équipe. Et en dehors de Colonel Toutou, les autres BD que j'ai fait, ce que j'ai fait, par exemple, Vaudou Sosseur, je l'ai fait tout seul. J'ai pas eu besoin. Mais je travaille quand même, j'ai un poste adapté, hein, puisque j'ai ce qu'on appelle un écran synthique aussi, qui est un outil pour moi qui m'aide beaucoup à zoomer. Tout ce qui est petit est très compliqué pour moi. Donc, l'écran me permet à grandir et à rétrécir mes images et à voir si ce qui a été fait, c'est ce que j'ai voulu au départ. Donc, il y a toutes ces petites techniques, toutes ces petites méthodes de travail dont appeler ça des aides, c'est puisque l'adaptation de poste, le matériel. L'écran synthique, c'est beaucoup plus numérique. Mais j'utilise aussi, quand je vais faire un dessin à la main, de couleur à la main, je travaille, j'organise mon travail sur synthique, je l'imprime et je fais des couleurs à la main. Ou bien je fais des ancrages avec du... Parce que moi, j'ai plusieurs univers graphiques. Hein. Je vais dans toutes les directions. C'est un peu ça. Et dans le domaine du dessin animé, puisque tout à l'heure je disais que j'ai travaillé un peu dans le dessin animé, sur le projet Ariel et Pougon, j'avais travaillé aussi sur un écran synthique. Je n'étais pas seul, il y avait une équipe. Je devais respecter l'organigramme. Et donc, le studio ne tenait pas compte du fait que j'étais un handicapé, mais c'était à moi de me coller. Mais j'avais cet outil quand même, l'écran synthique, qui était pour moi un moyen pour gérer cet handicap.
Quelle est votre définition de la France-Afrique et votre point de vue à ce propos ?
La France-Afrique, pour moi, c'est un système qui est dangereux pour le continent africain et même qui sera dangereux dans le futur pour la France. Ce système a été créé par De Gaulle après la Deuxième Guerre mondiale et dans le but de permettre à la France d'avoir des matières premières et de pouvoir aussi mettre l'Afrique dans une dépendance économique et continuer de faire l'Afrique sa chasse gardée, faire de l'Afrique ce qu'il voulait. Donc pour moi, en tant qu'Africain, c'est un système criminel qu'il faut tout faire pour arrêter. C'est un système qui se métamorphose en fonction des systèmes. Parce que bon, je vais un peu vous expliquer. Quand je parle de système, c'est que quand ça se crée, on était encore en pleine période de la colonisation. Après la colonisation, on nous parle de coopération. Aujourd'hui, c'est la mondialisation où c'est certains hommes d'affaires comme, entre guillemets, Monsieur Bolloré et quelques autres qui vont faire la loi en Afrique, qui obtiennent des contrats de concession dans des pays de manière illégale et pillent les pays. Et appauvrit des pays, organise la corruption dans le système politique des pays, ce qui donne résultat à la dictature. Et la dictature, vous savez ce que ça crée comme dégâts. La fuite des cerveaux, les emprisonnements arbitraires, parfois des assassinats ciblés, et les disparitions parfois des personnes qui dérangent le système. Donc voilà. Et aussi, ce que les gens oublient, c'est que la France-Afrique aussi, pour la France, est un système qui joue énormément dans le système politique français et qui va de plus en plus jouer, d'autant plus que vous avez quelques individus qui ont beaucoup d'argent, obtenu de manière frauduleuse, parce que c'est quand même pour moi des pilleurs, des voleurs, et qui arrivent et qui sont capables aujourd'hui, qui utilisent cet argent pour financer la campagne de leurs amis à la tête de la nation française. Et les Français croient être dans une démocratie, mais ce n'est pas réellement ça. Mais en fait, c'est une démocratie totalement frelatée. Et je ne serais pas surpris que la dictature qu'on a vue en Afrique pendant des années va arriver ici, de manière visible. Parce que quand même en France, certes, il y a une démocratie, mais il y a des choses qui se ressemblent un tout petit peu à ce qu'on voit en Afrique. Et de plus en plus, ça apparaît. Et je dis ça pourquoi ? Parce que c'est une façon de dire aussi à la jeunesse française de ne pas croire que quand certaines personnes françaises se permettent d'aller faire ce qu'ils veulent dans les pays des autres et qu'automatiquement, ils ne se retourneront pas contre leur pays. Et malheureusement, ça va se faire, ça va arriver. Il y a d'ailleurs des signaux, hein, de toutes les façons. Pour moi, ça, c'est la définition de la France-Afrique. C'est peut-être très noir, très dur, mais voilà, c'est la réalité de cette France-Afrique.
Il s'appelle président, il tient les rênes du pays depuis 10 à 40 ans. Il est élu à 99%, l'ethnie dont il est issu est qualifiée de pur sang. Son pays est soi-disant démocratique, les opposants, les critiques, c'est soit la mort, soit l'exil politique. Il est en place depuis son putsch, son coup d'état. Lui s'est enrichi, mais son pays s'est endetté. Embêtés sont les puissances occidentales, sponsorisées par sa rente d'hydrocarbures et de métal. Les connivences mafieuses, militaro-financières, le népotisme, les parpouzes et les mercenaires. Président à vie et son mandat quitte le pouvoir par mort naturelle ou assassinat. Quand c'est la paix, les dirigeants dirigent. Quand c'est la guerre qui dirige.
Aqui assim a sentir também Dengue, Jawaba Abishila Baba, Azola Kambote, O África, Baru Mukerno. Dengue, Jawaba, Abishila Baba, Azola Kambote, O África, Baru Mukerno.
Et quand le père meurt, le peuple pleure, la radio exploite la peur, l'ennemi est à l'intérieur. Les rancœurs et la terreur viennent chasser la paix, les barrages sont dressés, le voisin devient suspect. On décrète la ville morte et le couvre-feu, les ambassades se remplissent et tous les plans fuient. Il y a des rumeurs de pillages, des viols, des pénuries. Les gens ont peur, le peuple voit la paix mourir. Des jours de grève, des lynchages de plus en plus fréquents. La guerre civile est imminente, info mondiale sur les fréquences. L'ONU s'inquiète, engage des pourparlers. Faut-il agir, s'abstenir, y a-t-il des intérêts? Le cessez-le-feu est violé par les belligérants. Y'a plus de gérance dans le pays qui part en déshérence. La guerre est là, tout le monde la sent. Encore une fois, ce sera la mort des innocents.
Mawami olokata Mukonda tuazwe lukidi Ayi mushima wami tolokata Mukonda tuazwe lukidi Malumukenu, Afrika, Afrika, Malumukenu
avec l'espoir que tu puisses me lire. Les hommes sont bêtes, l'Afrique est belle, fais pas l'erreur de la haïr. Avec toi je voulais vieillir sur ces collines dans cette maison. L'horizon s'arrête ici, je suis venu chanter mon oraison. Il m'enlève le galbe de tes hanches, le suave de tes lèvres, sans trêve, Mugwaneza, lumière de tous mes rêves. Je dois quitter ce port, mon âme quitter son corps, mais mon amour, je resterai toujours à deux encablures de ton cœur. Je vais partir. Dans les minutes qui suivent, ma peine est lourde. J'espère que tu recevras cette missive. J'écris des vers d'espoir, des fleuves de tourterelles, des tours de rêve, de brèves trêves de querelles. Il est trop tard, les soldats envahissent la parcelle, ma belle.
J'écris des mots d'amour que je parsème. Sur ce cahier, je finis ma vie et ce poème. La guerre m'a pris de court pour te dire je t'aime.
L'histoire que vous avez décrite est-elle fictive ou y a-t-il une part de vérité?
Bon, voilà, notre démarche au départ, parce qu'on s'est posé une question quand on a travaillé chez la BD Colonel Toutou, en sous-titre à l'ombre de Paris. On s'est dit, bon, comment est-ce qu'il faut parler de ce système, amener les lecteurs en France de comprendre comment s'organise ce système, comment ça pouvait, on pouvait faire pour essayer de faire passer le message. On s'est dit, bon, voilà, on s'est rendu compte que l'humour était plus efficace pour raconter une histoire aussi dramatique et plutôt. Donc, on a fait le choix d'utiliser l'humour. Et si vous allez vous rendre compte, au départ du livre, vous avez vu, quand on démarre, il y a une forme de sommaire. On a fait une espèce de sommaire où on a organisé un chapitre où on explique en bas ce que ça veut dire tel chapitre, quel sujet ça traite dans tel chapitre. C'était une façon pour nous de montrer comment la France-Afrique s'organise, comment elle se nourrit, comment elle se pérennise. Donc voilà, c'était un peu ça notre démarche. Et l'humour pour nous, c'était ce qu'il fallait. Avec l'humour, c'est plus efficace de raconter ce type d'histoire sans froisser les gens, sans citer des noms, mais qu'au moins que les lecteurs se reconnaissent, qu'ils se disent aussi que voilà, ça a l'air d'une réalité. C'est un peu ça. Bon, nous espérons Christophe et moi, on espère qu'on a réussi notre coup. Mais bon, avec les retours, les gens apprécient. C'était au départ ce que nous voulions et voilà. Maintenant, c'est au lecteur de comprendre.
Du coup, on voudrait savoir, vous avez visé quel type de public à travers vos dessins?
Dans Colonel Toutou, c'est ouvert, quoi. Ça peut être c'est un public ado jusqu'à adulte, en quelque sorte. L'ado, peut-être, il va rigoler parce que le colonel Toutou et le général Génie sont très actifs dans leurs bêtises. L'ado, il va pas comprendre que nous racontons une réalité, mais l'adulte, il va comprendre très vite que non, ça nous rappelle c'est un système, ça représente un peu le système de la France-Afrique, en quelque sorte. Oui.
Quel est votre personnage préféré?
Dans la BD?
Oui.
C'est le commandant Génie qui est devenu général après. Ça, c'est mon personnage. Je me suis beaucoup amusé à illustrer ce personnage. Parce que c'est quelqu'un qui est très marrant, qui est méchant, en fait, qui suscite un peu la pitié et aussi la colère. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui reçoit des ordres et qui applique les ordres tels qu'ils sont, mais il ne réfléchit pas. Donc, comme par exemple, quand le colonel Toutou lui donne l'ordre d'aller cuisiner les prisonniers politiques. Pour lui, il comprend. Cuisiner, ça veut donc dire aller faire de la bouffe pour les prisonniers. Pour lui, c'est pas aller torturer, en quelque sorte. Et à chaque fois, il fait des bêtises comme ça, et le colonel, ça énerve le colonel. Et je ne vais pas dire que tous les soldats sont comme ça. Bon, c'est vrai qu'un soldat, c'est quelqu'un qui reçoit des ordres et qui les applique. On ne lui demande pas de réfléchir, en quelque sorte. C'est pour ça que ce personnage, pour moi, il est plus... Parce qu'en fait, je me suis bien marié avec lui, quoi. Parce qu'en fait, il faut le dire, quand on réalise une BD d'humour, même si c'est des sujets qui suscitent vraiment de la colère, quand le scénario est bien fait, c'est un plaisir, quoi. Quand on prend le plaisir de l'illustrer, ça se ressent aussi au niveau de... Le lecteur ressent que l'illustrateur a vraiment pris du plaisir à le faire, en quelque sorte.
Quels sont vos prochains projets ou peut-être déjà en cours?
Bon, pour l'instant, il faut savoir que... Bon, c'est vrai que je suis co-auteur dans la BD. En dehors de ça, je suis aussi éditeur de la maison qu'il a fait, parce que j'ai dit on a pas seulement que Colonel Toutou, on a édité d'autres albums, des autres auteurs. Fatigue que vous connaissez, dont nous avons deux albums qui vont sortir ce mois-ci. Donc, par rapport à Colonel Toutou, le deuxième tome est en réécriture. Mais comme à cause du coronavirus, nous n'avons pas eu la possibilité de faire connaître le premier tome, nous allons travailler encore sur la communication pour mieux la faire connaître la BD. En ce moment, ça bouge beaucoup en Afrique. Les Africains en ont marre des dictateurs, ça grogne un peu partout. Le représentant de la France est un peu en difficulté au Mali. Il essaye de dire, voilà, nous allons sortir, la France va sortir la France-Afrique, mais en même temps, il renforce cela. Et ça devient de plus en plus difficile pour tous ceux qui entretiennent ce système de continuer, parce que les gens ont compris. Et c'est vraiment l'actualité. Et pour nous, il faut continuer. On prépare un deuxième tome, parce que la France-Afrique, il y a tellement, tellement de choses à dire. Il y a tellement de sacrés personnages qui sont très inspirants. Donc, nous avons prévu faire d'autres tomes, hein, parce qu'on ne va pas s'arrêter au premier tome. Donc, pour l'instant, c'est un projet futur. Bon, moi, depuis Colonel Toutou, je n'ai pas entamé d'autres projets, sauf que je suis en train de réadapter la BD que j'ai écrite et dessinée, Vaudou Sosseur, pour un format webtoon, parce que je vais travailler dans un projet avec les webtoons portés par des éditions Dupuis. C'est sur ça que je travaille, mais par contre, c'est une adaptation. Je reprends les images que j'avais faites sur le livre et je les adapte au format webtoon, qui est le format téléphone portable. Donc voilà. Et ça, c'est pas de la création, c'est une copie, mais tout ce qui est lié vraiment au travail de création, j'ai pas vraiment envie d'autres projets. Bon, sauf que c'est vrai que je suis en train d'écrire un petit conte. Je suis en train d'adapter un conte africain en BD. La forêt interdite. Donc ça, c'est en écriture, mais dans le dessin, j'ai pas vraiment encore commencé à travailler dessus. Ouais.
Pour vos personnages, comment vous est venue l'idée des prénoms, de l'histoire?
Christophe me racontait, il y a de cela 5 ans, il me racontait l'histoire de quelqu'un de sa famille qui s'appelait Vieux Toutou, qui était assez méchant. Et donc, quand on a eu l'idée de la France-Afrique, on s'est dit, il fallait trouver un nom. Donc, un jour, ils ont dit à Christophe, mais Toutou, le nom Toutou, là, c'est pas mal. Et en plus, ça a double sens. Si on peut trouver quelque chose qui est... Donc, lui, il a eu l'idée de mettre Colonel Toutou. Et en fait, ce qui est bien, c'est que Toutou, ça veut dire le Toutou, en quelque sorte, c'est le chien, en quelque sorte. Et Toutou aussi, Colonel Toutou, pour nous, fait aussi référence au fait que les dictateurs africains, généralement, nous, on les appelle des sous-préfets de la France. Bon, en fait, c'est les gens qui sont mis là pour mater les Africains. C'est les chiens méchants, en quelque sorte. C'est des bulldogs qui sont là, dressés contre les peuples africains. Donc, c'est pour ça raison que j'ai dit, ah ouais, Toutou, ça fonctionnait. Et c'est pour ça raison que, en fait, c'est la raison qui nous amène à trouver ce nom de Colonel Toutou. Le général Génie, c'est une idée de Christophe. C'est à lui d'expliquer, parce que ce que je dis, il m'a pas dit pourquoi il avait choisi le général Génie. Mais ce que j'avais compris, c'est que le général Génie, c'est quelqu'un qui est intelligent dans la bêtise, quoi. En fait, qui a l'intelligence de la bêtise, quoi. Il est très fort, il est très fort dans les bêtises, quoi. Il est pas. Donc, je pense que c'était ça. Colonel Toutou est le président d'un pays qu'on appelle le Yop Laboum. C'est à refaire aussi à, parce que dans les familles françaises, dans les années 60-70 en Afrique, on passait parfois à la radio, je pense que c'était un comédien qui faisait raconter les histoires, qui chantait, qui s'appelait Prosper Yop Laboum. Et c'était dans les familles françaises qui étaient installées en Afrique. Ils adoraient cette édition. Donc le fait de le nom Yop Laboum, on s'est dit non, c'est pas mal, quoi. Ça serait bien de l'appeler le pays Yop Laboum, parce que bon, le nom Prosper Yop Laboum fait référence à la colonisation aussi. Et il y a qui d'autre comme personnage? Bon, je sais pas quel nom vous dit parce que je pense que c'est les trois principes. Le colonel Toutou et général Génie sont les deux principaux personnages. Bon, Yop Laboum, c'est le nom qu'on a su. Je pense que ce n'est que ça comme des mots-clés qu'on a trouvés pour la BD, quoi.
Si vous aviez un conseil pour un jeune qui rêve de faire de la BD, ça serait lequel?
La première chose, je dirais que c'est de la passion. Il faut être un vrai passionné. Il faut aimer le dessin. Il faut être patient aussi. Il faut respecter le travail. De toute façon, il faut respecter son travail. Quand je dis respecter son travail, c'est se dire, quand je m'assois devant ma table, je dois donner le meilleur de moi pour donner une image qui va parler au futur lecteur. Je pense que si on a déjà ce souci de bien faire et qu'on est patient qu'on peut se mettre dans la bande dessinée. C'est vrai que il y a aussi l'expérience dans les collaborations avec les maisons d'édition. Même c'est hors des maisons d'édition, même la collaboration avec les scénaristes. Parce que c'est une histoire, c'est une collaboration. C'est généralement un travail d'équipe où il faut se comprendre, il faut s'écouter. Et il ne faut pas imposer à l'autre sa vision. Il faut être capable d'accepter les critiques de son collaborateur. C'est un peu tous ces petits ingrédients. C'est tout ça qui fait vraiment le métier de la BD. Hein. Et c'est le béaba en quelque sorte. Chaque auteur a son parcours, a son histoire. On n'a pas tous les histoires pareilles, quoi. Chacun évolue différemment. Donc, voilà.
En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir pu répondre à notre question par rapport à vos parcours, vos passions et votre point de vue sur la BD. Mmh. Et de plus, on vous remercie d'avoir...
C'est moi qui vous remercie. Vous savez, quand on passe le temps à s'enfermer dans notre bulle devant notre table, on a toujours besoin d'une chose, c'est de finir notre album et de sortir pour aller partager notre expérience avec des personnes comme vous. Et c'est toujours un plaisir d'assister à des échanges comme ça, d'échanger avec des personnes qui se sont intéressées à notre travail. Vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est. C'est gratifiant pour nous, le fait qu'on se dit il y a des gens qui sont intéressés à ce qu'on a proposé. Et c'est vraiment important d'échanger, de parler, de raconter pourquoi on a fait quoi, pourquoi on s'est retrouvé là, pourquoi on a fait le choix de faire ça, si faire ça. Donc voilà. C'est moi qui vous remercie vraiment pour ça.
Nous vous souhaitons la réussite dans votre parcours.
Merci à vous.